Ce matin, j'ai eu envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. J'en parle très souvent. Je l'inclus dans beaucoup de mes prédications. C'est un sujet aussi que je m'efforce de vivre au quotidien. Et ce sujet, c'est celui-ci. Que chaque chrétien puisse avoir un impact dans sa communauté. Pour moi, c'est vraiment important. La Bible nous dit qu'on est l'odeur de Christ. Amen. Amen. Être l'odeur de Christ le dimanche matin, c'est super bon, c'est super important. Mais l'être 365 jours par année, c'est encore mieux. Cette nuit, pendant que je comptais les heures, je me suis mis à penser ou à rêver tout haut. Je me suis dit, j'aspire à voir les croyants du Québec. Pas juste de Québec, mais du Québec. J'aspire à voir les croyants du Québec être vraiment la lumière et le sel de la terre. C'est vraiment, j'aspire à ça. Et je me disais, si nous, on se lève, si on commence aujourd'hui à se lever pour démontrer qui nous servons, qui nous honorons par notre vie, je me dis, qu'est-ce que le Québec va avoir l'air dans un an? Transformé, mes amis. Le Québec sera transformé par celui qui règne encore depuis toute éternité. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Père éternel, ce matin, je te remercie pour ta bonté, je te remercie pour ta fidélité, Seigneur. Je te remercie pour qui tu es ce matin, Seigneur. Seigneur, tu es tellement grand, tellement puissant. On a tellement besoin de toi, Seigneur. Seigneur, on ne peut pas t'oublier, Seigneur, parce que sans toi, on n'est rien, Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, de m'accompagner ce matin, de bénir cette salle, Père éternel, de bénir mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, de semer une étincelle dans leur cœur, Père éternel, par ton Saint-Esprit. Merci pour ce que tu vas faire. Et Seigneur Dieu, on s'attend à toi, Père éternel. Amen. Amen. Vous connaissez tous ce verset, Matthieu 28, 19? Il paraît qu'on voit les PowerPoints. Matthieu 28, 19, ça dit ceci. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ce matin, j'ai une confidence à vous faire. Il faut que vous me promettiez que ça reste entre nous autres. Il ne faut pas que les gens de Mégantic le sachent parce que je ne suis pas sûr que ça va passer. Bien avant que je sois pasteur, pour moi, le verbe « aller », ça se résumait à une chose, « aller à l'église ». J'ai longtemps cru que si j'allais fidèlement à l'église à tous les dimanches matins, que je payais ma dîme et que je m'impliquais là où je devais m'impliquer dans l'église, j'allais finir par être un bon chrétien modèle. Je m'étais persuadé que de faire tout ça religieusement, ça allait être suffisant pour que ma vie ait un impact autour de mon entourage. Et vous savez quoi? Ça n'a pas eu vraiment d'impact, ça. Je ne sais pas pourquoi je me suis posé la question, pourquoi j'avais cette pensée-là à l'époque. Est-ce que c'est par paresse théologique, parce que je ne voulais pas vraiment voir ce que Dieu voulait me montrer? Mais en 2008, il y a eu un déclic. En 2008, il s'est vraiment passé quelque chose de merveilleux dans ma vie. Et si vous voulez le savoir, ce qui s'est passé en 2008 dans ma vie, vous allez devoir m'inviter à prendre un café. J'ai enfin compris en 2008, puis il n'est jamais trop tard, Dieu merci, j'ai compris que pour aller faire des disciples, je n'avais pas besoin d'avoir un appel d'évangéliste ni d'un appel missionnaire. Moi, pour moi, aller faire des disciples, c'est comme si on devait avoir ça dans le sang, c'est comme si on devait avoir un don pour ça. Et non. J'ai compris aussi qu'en Matthieu 28, verset 19, Jésus ne me demandait pas d'aller évangéliser tout ce qui bougeait autour de moi. Des fois, j'avais une tendance de dire, « OK, Seigneur Dieu, si c'est ça que tu nous demandes, il faut aller vers les gens sans réfléchir. » Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demandait. Ce n'est pas ça que Christ nous demandait. Vous savez, le verbe « aller », c'est un verbe qui est extraordinaire. Et surtout léger quand tu le prends dans son sens originel. Le verbe « aller », ça veut simplement dire « en vivant ta vie au quotidien. » En allant travailler, en allant mettre de l'essence, en allant à l'épicerie, en allant te chercher un café, Nelson soit un témoin de Christ en parole et en action. Vous savez, parce que les paroles et les actions vont de pair. J'ai une expression que je répète allègrement au lac Mégantic, c'est quand on est chrétien, il faut que nos bottines suivent nos babines. Hein, des fois, on peut parler, puis il faut parler de Christ. Mais si on dit qu'on aime Christ, puis on n'aide pas un frère qui est dans le besoin, ou qu'on ne prend pas le temps d'aider un collègue de travail qui en a besoin, des fois, nos paroles peuvent être comme un airain qui résonne. Donc, on doit être un témoin de Christ en parole et en action. Donc, à partir de 2008, j'ai compris que d'être à l'église le dimanche matin, c'est merveilleux. Mais de représenter Christ durant la semaine, c'est glorieux. Alors, ce matin, voici le titre de mon message. Le titre de mon message est celui-ci. « Sors de ton ambassade. » Sors, où est-ce que je m'en vais avec mes skis à matin? Hein? Restez avec moi, s'il vous plaît. « Sors de ton ambassade. » Paul a dit ceci dans 2 Corinthiens 5:20. Paul a écrit une lettre qui est incroyable. Je vous encourage à aller lire 2 Corinthiens 5 au complet. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5:20, il nous dit ceci. « Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. » Amen. Là, il est en train de parler de nous autres en 2026. Là. Nous sommes donc des ambassadeurs envoyés par le Christ. Et c'est comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5:17, on ne l'a pas au PowerPoint, mais 2 Corinthiens 5:17, ça dit ceci. Lorsqu'on est uni en Christ, à Christ, on est une nouvelle création, nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvel. Aïe, on lit la même Bible, merveilleux. Mais Paul a écrit ce... Paul est venu nous faire comprendre que lorsqu'on est croyant, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme sauveur, Paul voulait vraiment nous faire saisir quelque chose d'important pour nous aujourd'hui. 3 versets plus bas, il nous dit, « Aussitôt vous avez accepté Christ, vous n'êtes pas sur le chômage. » Il nous dit, « Vous êtes des ambassadeurs envoyés par qui? Par Christ. » Frères et sœurs, Dieu nous a confié une mission glorieuse. Amen. Mais soyons honnêtes, nous n'avons pas été sauvés pour vivre notre foi uniquement dans ce lieu. Nous sommes bien, on est bien ensemble, n'est-ce pas? Il faut se réunir ensemble, il faut passer du temps ensemble entre croyants, entre frères et sœurs. On doit faire partie d'une famille d'église. Mais ce matin, la louange était magnifique. Merci, le Ben, c'était vraiment magnifique. Mais la réalité, c'est que nous avons été sauvés par grâce pour être des ambassadeurs du royaume de Dieu dans cette magnifique capitale. Laissez-moi vous poser cette question. À quand remonte la dernière fois où vous avez exercé votre fonction d'ambassadeur? À quand remonte la dernière fois où vous avez exercé votre fonction d'ambassadeur? Avant d'aller plus loin, c'est quoi au juste un ambassadeur? Selon le dictionnaire, un ambassadeur, c'est un représentant ou une représentante permanente d'un État auprès d'un État étranger. C'est la fonction la plus élevée dans la hiérarchie diplomatique. Un ambassadeur, c'est aussi une personne chargée d'une mission. Il me semble que ça ressemble drôlement au rôle que Dieu nous a confié, hein? Vous ne trouvez pas? Un ambassadeur, ça travaille et ça habite aussi dans une ambassade. Donc, une ambassade, c'est le terme utilisé pour désigner le lieu où sont situés les bureaux du personnel diplomatique. C'est aussi la résidence de l'ambassadeur. Juste comme ça, est-ce que vous savez qui est M. Raymond Chrétien? Tu connais Raymond Chrétien? Oui, hey, bateau. Moi, c'est Google qui me l'a appris, qui était. Mais c'est pas une joke, il a vraiment existé, monsieur. J'espère qu'il n'est pas ici toujours. Non? OK. OK, phew. Cet homme a bien existé. Il a longtemps été ambassadeur du Canada. M. Raymond Chrétien est le neveu de l'ancien premier ministre Jean Chrétien. M. Raymond Chrétien a été diplomate canadien qui a représenté le Canada dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis, en France, en Belgique, au Mexique et au Zaïre. À seulement 36 ans, il est devenu le plus jeune ambassadeur de l'histoire du Canada. Sa mission consistait à représenter fidèlement son pays, le Canada, à défendre les intérêts canadiens et à transmettre les valeurs canadiennes dans des contextes parfois difficiles et tendus. Par exemple, lors de son mandat à Washington, il a joué un rôle clé dans la mise en œuvre de l'accord de libre-échange nord-américain et a su expliquer aussi la position du Canada lors du référendum québécois de 1995. M. Chrétien a été un ambassadeur qui a fièrement représenté le Canada. Mais comme M. Chrétien, nous qui sommes dans cette salle, nous sommes tous appelés à représenter la personne de Jésus-Christ partout où nous allons. Je dis bien partout. Comme Raymond Chrétien, qui a dû comprendre la culture du pays où il était, tout en restant fidèle à son gouvernement, nous qui sommes chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans ce monde tout en représentant fièrement et surtout fidèlement le royaume de Dieu. Vous savez, être un représentant, être une représentante du royaume de Dieu, ça implique une chose, celle de transmettre les valeurs du royaume là où nous vivons. Amen. Que vous soyez de la Beauce, que vous soyez de Québec, que vous soyez de Montréal. Lorsqu'on est choisi, lorsqu'on a été envoyé, notre mandat, c'est de transmettre les valeurs du royaume là où nous vivons. Vous savez, M. Chrétien, je reviens à lui un instant, mais M. Chrétien a été un excellent ambassadeur. Sauf que pour remplir ses fonctions de représentant, il a dû faire preuve de courage en quittant la sécurité et le confort de son ambassade. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont restés trop longtemps enfermés dans leur ambassade. Vous savez, l'Église, c'est vraiment notre zone de confort. On est bien dans l'Église. On trouve que c'est un lieu merveilleux pour s'épanouir entre croyants. Mais vous savez, les gens qui sont sans Christ, les gens qui ne connaissent pas encore Christ aujourd'hui, l'Église doit être perçue pour eux comme un hôpital pour les malades. Un endroit où ce que les gens peuvent rentrer ici puis sentir la sécurité, vivre une restauration, sentir surtout un amour familial entre nous. Mais pour nous qui sommes croyants, oui, on peut être restauré, oui, on peut vivre cet amour familial. Mais pour nous qui sommes chrétiens, l'Église, ça devrait être surtout vu comme une borne de recharge. On vient ici pour recharger nos batteries, mais à un moment donné, on doit quitter ce lieu merveilleux pour donner ce que nous avons reçu. Et surtout pour montrer que le royaume de Dieu est réel. Amen. Amen. Dieu fait encore des guérisons aujourd'hui. Amen. Et Dieu veut vous utiliser pour être des agents de transformation, des agents qui vont amener le monde à connaître Jésus-Christ. Seulement par des petits gestes anodins des fois. Une parole qu'on peut dire des fois, puis c'est une parole qui peut être prophétique. On peut dire une parole prophétique sur un collègue de travail qu'on ne sait pas qu'il traverse quelque chose de difficile. Montrons que le royaume de Dieu est réel. C'est notre mandat à nous, ça. C'est notre mandat à nous. Alors ce matin, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, sors de ton ambassade. Sors de ton ambassade. Pas tout de suite, par contre. Attendez un petit peu. Mais sors du confort de l'Église. Affiche-toi. Sors de ta coquille. Ose dire à tes amis à l'école que ton meilleur ami est un dénommé Jésus. Mes amis, osez prier pour la situation familiale de ton collègue de travail. Vous savez, prier pour nos collègues de travail à l'Église, c'est bien. Mais prier pour eux sur notre milieu de travail, c'est encore mieux. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà expérimenté ça? Oui, prier pour quelqu'un qui traverse quelque chose, là, puis souvent on dit, « Ah, OK, je vais prier pour toi. » Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on l'oublie. Mais si on le fait maintenant, « Hey, tu vis quelque chose de difficile? Hey, je vais prendre du temps et je vais le faire maintenant pour toi. » Je vous le dis, si vous essayez ça, vous allez aimer ça. Amen. Vous allez prier pour lui à l'Église, tant mieux. Mais si vous le faites pour lui, vous allez démontrer que vous l'aimez et que vous vous souciez de lui. Et je vous le dis, si vous essayez ça, vous allez aimer ça. Et je vous garantis que votre foi va grandir. En 2008, il y a un verset qui m'a vraiment, mais vraiment touché. Ce verset se trouve dans Ecclésias 9:10. Ça dit ceci, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. » Parce que demain, la reste, je paraphrase, parce que demain, il va être trop tard. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il y a trois semaines maintenant, j'étais chez nous, je ne prêchais pas le dimanche, donc j'avais du temps pour faire mes travaux à la maison. Et puis, il y a trois semaines, j'étais en train de corder mon bois de poêle. Vous savez, nous, à Mégantic, on se prépare déjà pour l'hiver, là. Noël, c'est dans 6 mois quand même, là. Préparez-vous, là. J'étais en train de corder mon bois de poêle, tout ça, puis j'étais habillé en ouvrage, tout ça, et puis j'ai reçu un coup de téléphone de la maison de la cinquième saison. Maison de la cinquième saison, c'est la maison de fin de vie au lac Mégantique. J'ai reçu un téléphone me disant qu'il y a une dame qui voulait me rencontrer, une chrétienne que je ne connaissais pas, tout ça, donc... Instinctivement, j'ai pensé, « Ouais, là, je corde mon bois, là, je suis parti, à mon âge, ça me prend du gaz pour redécoller. » Fait que je dis, « OK, qu'est-ce que je fais? » Et ce verset-là m'est revenu. « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. » Cette dame-là avait besoin de rencontrer quelqu'un. C'était cette journée-là qu'on devait se rendre à son chevet. Je ne connaissais pas la dame. Je me suis changé, j'ai mis un peu de déo. Je me suis rendu à la maison de cinquième saison. Et puis, je suis rentré dans la chambre de la dame. Elle était déjà en fin de vie. Et puis... J'ai pas pu beaucoup parler avec elle, mais on a quand même eu un moment de prière assez incroyable. On était connectés dans l'esprit, même si on n'a pas pu communiquer comme on l'aurait voulu. Et je peux vous dire que je n'avais jamais senti la paix de Dieu autant que ça. Dans ce moment-là, je ne savais pas quoi dire, mais je sais que Dieu voulait faire descendre sa paix dans le cœur de cette dame-là. Pourquoi je vous dis ça? Frères et sœurs, n'oubliez jamais que vous êtes des ambassadeurs envoyés par le Christ. Peu importe ce que vous faites, peu importe la température, peu importe la journée de la semaine, n'oublions jamais que nous sommes des ambassadeurs envoyés par le Christ. Amen. On est des ambassadeurs, puis les gens ont besoin de nous voir agir. Si nous, chrétiens, nous nous taisons, si nous nous cachons, qui portera le message de l'Évangile à nos proches ou à nos collègues de travail? Si nous nous taisons, qui dira qu'en 2026, qu'il y a de l'espoir pour les gens découragés? Qui dira que le Seigneur a une solution pour les couples qui sont au bord du divorce? Mon ami, les gens qui t'entourent ont besoin d'entendre ton histoire. Je suis sérieux quand je vous dis ça. Les gens qui t'entourent ont besoin d'entendre ton histoire. Le monde que tu côtoies dans ton cercle d'influence, les gens que tu côtoies dans ton cercle d'influence ont besoin de voir la lumière que tu portes en toi. Ton entourage a besoin d'entendre ton témoignage. Ouais, mais je n'ai pas de témoignage. Moi, je suis né dans l'Église. Vous connaissez Jésus? C'est le plus beau témoignage que vous pouvez porter. Amen. Vous avez été tant aimé. Hein? Les gens ont-ils besoin d'amour aujourd'hui? Amen. Hein? Les gens ont besoin d'entendre votre témoignage. Les gens ont besoin de savoir aussi ce que tu as expérimenté en donnant ta vie à Christ. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez accepté Christ? Amen. C'est une expérience qui est vivante, accepter Christ. Amen. C'est vivant. Ça change à jamais notre vie, accepter Jésus-Christ. Ce que tu as vécu, c'est inoubliable. La nouvelle naissance, c'est une expérience qui est saisissante. En 2008, lorsque je me suis reconsacré à Christ, ça a changé complètement ma vie. Avant 2008, j'étais très religieux. Puis quand j'ai reconsacré ma vie en 2008, j'ai compris que je ne connaissais pas encore que Jésus-Christ, que j'avais besoin qu'il change ma vie. Et ça a tellement changé ma vie en 2008, puis je n'exagère pas, là. Moi, avant, j'étais propriétaire d'un atelier de mécanique, j'étais mécanicien. Et quand je suis rentré travailler le lendemain, lorsque je me suis reconsacré à Christ, le lundi matin, je flottais dans mon garage. Je vous le dis, c'est comme j'étais sur un nuage. Ça a changé ma vie. Je regardais par la fenêtre de mon garage, puis je regardais les couleurs des arbres. Mon père me disait, « Mais qu'est-ce que tu fais là, Nelson? Il y a de l'ouvrage. » Mais les couleurs étaient magnifiques. Le vert était vert, le bleu était bleu, le noir était blanc. Mais je peux vous dire une chose, c'est que Jésus a changé ma vie. Est-ce qu'il a changé la tienne aujourd'hui? Amen. N'hésite pas ce matin. Si tu n'as pas encore fait ce pas-là, sors pas d'ici sans avoir rencontré Jésus. Sors pas d'ici sans avoir donné ta vie à Christ. Ça va changer ta vie, ça va changer ta situation familiale. Ça va régler tes problèmes d'addiction. Alors, si tu as rencontré Jésus, affiche-toi pour le roi. Amen. Amen. Affiche-toi pour le roi. Vas-y, le ciel t'a engagé. Il n'y a pas de chômage dans le royaume de Dieu. Amen, n'est-ce pas? Merveilleux. Ce matin, c'est une chose à retenir, c'est celle-ci. Tu es un ambassadeur. Tu es une ambassadrice. Mais es-tu en mission ce matin? Vous savez, un des problèmes que j'ai identifié chez certains croyants, pas ici par contre, c'est qu'avec le temps, certains croyants vont recommencer à vivre leur vie chrétienne pour eux-mêmes. Sans trop s'en rendre compte, avec le temps, on peut commencer à souffrir d'un syndrome grave appelé le nombrilisme aigu. Vous savez, c'est quoi le nombrilisme aigu? Vivre une foi centrée sur soi-même. Hein? Seigneur des Anneaux, Gollum, mon précieux. Vivre une foi centrée sur soi-même, c'est mes besoins, mes intérêts, mes émotions, ma compréhension, mes choix, mon humeur, ma mission. Vous savez, parfois, on a tendance à se faire des accroires en tant que croyant, et je m'en ai fait pendant des années. On dit « Seigneur, je veux vivre pour toi, Seigneur, je veux te servir », mais on a tendance à choisir ce qui fait notre affaire. « Seigneur, je veux te servir, mais de 9h30 à midi, le dimanche matin. » Et la semaine, quand il n'y a pas de hockey, ça achève. Seigneur, je veux témoigner pour toi, mais seulement avec les gens avec lesquels je me sens à l'aise. Puis ceux et celles qui m'ont blessé, ceux et celles que j'aime pas, Seigneur, je les ignore. Vous savez, vivre de cette façon, c'est contraire à ce que la Bible enseigne. Galates 2:20 nous dit ceci. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avez-vous remarqué le verset? Hein? Vous savez, le mot le moins important là-dedans ce verset-là, c'est le « moi ». Le mot le plus important qui rend le « moi » meilleur, c'est Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est son esprit qui devrait nous pousser à aller faire le travail qu'il nous a confié. Amen. Parce que des fois, on peut être un peu paresseux. T'sais, mais Seigneur Dieu, si tu veux vraiment te sentir vivant, laisse Jésus prendre toute la place. C'est Christ qui vit en nous. Amen. Un ambassadeur ne vit plus pour lui-même. Il vit pour représenter son roi. Et j'aime ce que Pierre a dit dans sa première lettre, 1 Pierre 4:2. Ça nous dit ceci. « Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre. » Ça veut dire... Le reste de votre vie terrestre, ça veut dire jusqu'à temps que vous ayez votre dernier souffle. Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. Un ambassadeur, ça parle au nom du roi. Ça vit pour le roi qu'il représente. Un ambassadeur, ça porte le message de l'Évangile qu'il représente. Une ambassadrice, ça apporte le style de vie du royaume qu'elle représente. J'aime beaucoup cette citation. Je me souviens plus d'où elle vient. Je pense que c'est David Tripp. On va l'appeler David. Ce monsieur-là a dit, « L'ambassadeur n'a qu'une seule fonction, celle de représenter son roi. Chaque mot qui sort de sa bouche reflète les intérêts et la volonté du roi. » C'est exactement à cela que Dieu nous appelle. Ce que nous disons doit refléter ce que Dieu cherche à accomplir dans notre cœur et dans celui des autres. Wow! Frères et sœurs, nous avons tous reçu un mandat céleste. Et ce matin, le Saint-Esprit t'invite à saisir cet appel. Tu as reçu le ministère de la réconciliation. Amen! Des fois, j'entends des gens se plaignent, ouais, mais j'ai pas de ministère, moi je suis pas missionnaire, je suis pas pasteur, je suis pas ci, je suis pas ça. Vous savez, avant d'être pasteur, on avait tous un ministère qui s'appelait le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5:18, ça dit ceci, tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Ce que Paul a écrit ici sur le ministère de la réconciliation, ça fait référence au travail que tous les croyants ont reçu, celui de communiquer simplement aux gens qui nous entourent qu'ils ont la possibilité d'expérimenter une relation restaurée avec Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Vous savez, c'est ça, être un ambassadeur. Vous savez, les gens du Québec n'ont pas besoin d'être réconciliés avec l'Église. Ils ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Mon ami, tu n'es pas sauvé uniquement pour attendre paisiblement d'aller au ciel. Avant tout, tu es sauvé pour parler, aimer, prier, témoigner, comme et pour Jésus. Pour ça, pour y arriver, bien, tu dois sortir de temps en temps du confort de ton ambassade. Imaginez un instant si Jésus avait décidé de rester au ciel. Imaginez si Jésus n'avait jamais voulu quitter son ambassade céleste. « Ouais, mais moi, aller mourir sur une croix, ça ne tente pas beaucoup. » Mais au contraire, Jésus n'a pas hésité un instant. Il a quitté la gloire céleste, il a quitté son ambassade royale pour venir s'incarner. Jésus a quitté le ciel pour venir chercher les perdus. Comme il l'a si bien dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Comme le Père a envoyé son Fils pour nous sauver, de même, Jésus nous envoie pour amener les gens à être réconciliés avec Dieu. J'aime ce que Jésus a dit à ses disciples en Jean 20, 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comment ça résonne, ce verset-là, dans votre cœur ce matin, dans votre tête? Comme le Père a envoyé Jésus, lui aussi, il nous envoie. Vous savez, en 2026, Dieu veut des ambassadeurs en mission, pas des chrétiens confinés à résidence. Il existe un réel danger de toujours vivre sa foi dans le confort de l'Église. Comprenez-moi bien, je suis amoureux de l'Église locale. Je suis un très grand défenseur de l'Église locale. On a tous besoin, mais quand je dis tous, on a tous besoin de faire partie d'une famille d'Église locale. Vous savez, l'Église locale, c'est un endroit incroyable pour exercer nos dons, pour apprendre à développer nos talents. Mais vivre ou expérimenter sa foi uniquement dans le confort de l'Église peut être un piège. On peut lever les mains, on peut louer fort, on peut prier fort sans avoir peur d'être jugé par personne. Mais désolé de vous dire ça, mais vivre sa foi uniquement dans le confort de l'Église, j'appelle ça vivre enfermé. Un ambassadeur enfermé dans son ambassade, on appelle ça comment? Un prisonnier politique. Mes amis, Dieu a un message et il se cherche des messagers. Vous connaissez l'histoire de Jonas? C'est lui qui a bâti un gros bateau? Non, c'est pas ça, OK. J'entends l'école du dimanche, moi, là. Hein? Jonas était un prophète du temps du roi Jéroboam II. Cette histoire-là, moi, je la vois en 3D. Hein? L'Éternel appelle Jonas pour être un ambassadeur à Ninive. Imaginez comment Jonas devait se sentir honoré d'avoir été choisi pour annoncer de bonnes nouvelles à Ninive. Et il devait être content, lui, parmi tous les prophètes qu'il y avait à son époque. Joël, Élisée, Osée, Michée. L'Éternel choisit Jonas. Il devait tous les péter les bretelles. Hein? Et il devait dire, hey, moi, là, les gars, hey, Osée, c'est moi qui ai choisi. C'est moi que Dieu a osé choisir. Il a souvent fait ses bagages en disant à ses amis prophètes, « Hey, les gars, on se revoit dans quelques semaines. » Mais l'histoire de Jonas nous apprend que Jonas voulait rester loin de Ninive. Vous savez sûrement pourquoi? Parce que qui dit Ninive dit Assyrie, et qui dit Assyrie dit ennemi d'Israël. Donc, à la base, les habitants de Ninive n'étaient pas très chauds à l'idée de recevoir un chrétien chez eux. Les habitants de Ninive avaient leur propre Dieu, leur propre style de vie, leurs propres mœurs et coutumes, qui étaient très différentes de celles de Jonas en passant. Jonas, en homme intelligent, a sûrement dit à l'Éternel, « Seigneur, prends donc Osée, il est bien meilleur que moi. Hein? Prends Michée, lui, il est jeune. Lui. Seigneur, cherche-toi un autre ambassadeur. » Je suis très bien, moi, dans mon ambassade en Israël. Par contre, l'Éternel a certainement répété à plusieurs reprises à Jonas, « Jonas, va à Ninive. J'ai un message pour cette ville. » Il n'a jamais demandé à Jonas de sauver la ville. Il a demandé à Jonas, « Va porter le message que j'ai pour cette ville. » Vous connaissez le reste de l'histoire? Jonas dit, « Oh que non, j'y vais pas. » Jonas, il quitte sa ville. Il s'en va à Jaffa. Il prend un bateau pour Tarsis. Est-ce que vous vous souvenez un peu de la carte? Tarsis et Ninive, c'est à l'opposé. À ce temps, un méchant bout, comme on dit dans Bruce, hein? Mais vu que Dieu est un Dieu qui ne manque pas du mot, avec l'aide d'un grand poisson, l'Éternel ramène Jonas à son point de départ. Jonas était sûrement un excellent prophète en Israël. C'était facile pour lui. Tout le monde le connaissait. Tout le monde connaissait le même Dieu que lui. Mais être la voix de Dieu à Ninive, dans une ville qui ne pense pas comme toi, c'est une autre paire de manches. Mais pensez-y un instant. Jonas était la personne par laquelle Dieu voulait susciter un réveil à Ninive. Dieu avait un message pour cette ville. Dieu avait simplement besoin d'un messager pour produire un changement à Ninive. On sait tous que Jonas a bougonné pour se rendre à Ninive, mais en même temps, ce n'est pas ça le plus important. Jonas a fini par obéir, et son obéissance a produit un réveil. Vous savez, on peut être un chrétien super cool aujourd'hui, avec plein de connaissances théologiques, mais en ayant perdu l'essence même de notre mission, celle d'atteindre les nations pour Jésus-Christ. Vous savez, quand je lis ce qui s'est produit à la Chambre haute, le jour de la Pentecôte, je me dis, Nelson, tu n'as aucune excuse pour ne pas ambassader. Allez relire ce qui s'est produit dans la Chambre haute. On vient tout juste de célébrer la Pentecôte. Les 120 personnes qui étaient dans la Chambre haute ont tous été remplies pour sortir de la Chambre haute, pas pour rester enfermés dans la Chambre haute. 120 personnes, c'était tous des gens qui avaient tous des personnalités différentes. Il y avait, dans ces 120 personnes-là, il y avait des timides, il y avait des audacieux, il y avait même peut-être 2-3 chialeux. Et c'est des gens qui avaient des dons différents, mais ces 120 personnes ont tous été remplies du même esprit pour aller vers les gens à Jérusalem. Vous savez, quand je lis les Actes, je me dis que la puissance du Saint-Esprit n'est pas réservée uniquement pour les dimanches matins ou pour les temps de louange à l'Église. Au contraire, Actes 1-8, Jésus nous a bien dit, « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du Québec. » Amen. Être un témoin à l'Église, c'est bien, mais être un témoin à l'extérieur de l'Église, c'est mieux. Parce que je crois réellement que la puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance missionnelle. Elle est là pour nous envoyer. Elle nous équipe. Elle nous remplit de force, d'audace, de courage pour être capable de verbaliser ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Je me suis rendu compte une fois, vous êtes mieux de bégayer que de ne rien dire. Parce qu'un bégaiement peut atteindre le cœur de quelqu'un. Amen. Amen. Souvent, vous êtes la personne choisie, et des fois, on l'oublie. Vous êtes la personne choisie pour amener un changement dans le cœur d'une personne. Parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Parce que vous êtes équipé. Parce que vous êtes en mesure de parler de la gloire de Dieu dans votre vie. La puissance du Saint-Esprit, c'est une puissance missionnelle. Cette puissance nous est donnée pour qu'on soit tous en mesure de remplir notre rôle d'ambassadeur. Je crois réellement qu'on est équipé pour être envoyé. Attendons jamais d'être parfait. Attendons jamais d'être parfait parce qu'on ne fera jamais rien. Vas-y avec la connaissance que vous avez. Vas-y avec l'amour que tu as. Vous êtes mieux commencer avec un petit peu que de rien faire. Vous savez, l'ambassadeur n'attend pas que les gens viennent à lui. Il va. Il va vers ceux et celles qui ne connaissent pas encore Christ. Oui, on doit être un encouragement entre nous, entre frères et sœurs. On doit s'encourager, on doit s'exhorter, on doit s'aimer les uns les autres. Mais être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une couverture chauffante. On est cosy, on est bien, je n'ai pas besoin de plus, je veux pas en faire plus. Au contraire, la puissance du Saint-Esprit, c'est un feu qui se propage par l'intermédiaire de gens comme vous et moi. Mes amis, pour voir un réveil prendre place, le secret, c'est assez simple. Ça prend des croyants courageux et qui croient en la parole de Dieu. J'aime cette phrase. J'inviterai les musiciens aussi. J'aime cette phrase que j'ai lue. Ça dit ceci: le monde ne sera pas changé par des chrétiens silencieux. Il sera transformé par des ambassadeurs courageux et remplis de feu. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je termine mon message en vous encourageant à vous voir comme Dieu vous voit. Regardez-vous comme Dieu vous voit. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes prêts à sortir de leur ambassade, prêts à briser les murs de la peur, de l'inquiétude et même du confort. Le Saint-Esprit te dit ce matin, sors de ta timidité. Rappelez-vous que l'esprit que vous avez eu, ce n'est pas un esprit qui vous rend timide. Ce que vous avez reçu, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Est-ce que vous savez combien de fois je me suis répété ce verset-là avant de venir prêcher devant vous ce matin? On n'a pas reçu un esprit de timidité. Ce que nous avons reçu, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit te dit ce matin, sors de ta prison. Peut-être que pour toi, ce matin, la prison, c'est la peur, c'est le doute, c'est le mensonge. Mais arrête de croire toutes les pensées toxiques qui peuvent te venir. Arrête de croire que tu n'es pas prête, que tu n'es pas qualifié. Pierre, il n'était pas plus qualifié. Je ne l'étais pas plus qualifié. Mais quand on se rend compte de la puissance qui nous habite, c'est cette puissance-là qui nous rend capable d'y arriver. Alors sors de ta prison de la peur, du doute ou du mensonge. Le Saint-Esprit te dit ce matin, sors et parle, sors et aime, sors et sois un agent de réconciliation pour ton Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est plus le temps de jouer à l'Église. Je crois réellement que Jésus-Christ revient bientôt. On n'a plus le temps de jouer à l'Église. C'est le temps que l'Église, que chaque croyant remplisse son rôle d'ambassadeur. Je termine mon message en vous invitant à faire cette déclaration prophétique sur votre vie. Vous savez, des fois, on aime ça, recevoir des paroles prophétiques qu'on reçoit de d'autres personnes. Mais des fois, on devrait s'en faire plus sur notre vie, des paroles prophétiques. On devrait se dire, « Hey, moi, je suis courageux un matin. Hey, moi, je crois que Dieu m'a choisi ce matin. Je suis beau, je suis belle, je suis capable. » Mais ce matin, je t'invite à faire cette déclaration prophétique sur ta propre vie. Ce matin, je suis un ambassadeur du royaume. Je sors de mon confort. Je n'ai rien à craindre. Il y en a qui ont peur, hein? Je n'ai rien à craindre. Je parle pour mon roi. Je suis rempli du Saint-Esprit et je sors de mon ambassade au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Père éternel, ce matin, Saint-Esprit, on te remercie ce matin. On te remercie pour ce lieu, Seigneur Jésus. Père éternel, que le Québec soit touché, Seigneur. Que le Québec soit visité par un vent de repentance, Seigneur Dieu. Tout-Puissant, Seigneur, envoie ton peuple, Seigneur Jésus. Que ton peuple puisse s'unir dans l'esprit, dans le même cœur, Seigneur Jésus. Père éternel, enlève la compétition, Père éternel. Fais qu'on soit un même peuple, Seigneur Jésus. Fais de nous une pierre pesante au Québec, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à voir le monde comme toi tu les vois, Seigneur Jésus. Apprends-nous à aimer le monde comme toi tu les aimes, Seigneur Jésus. Père éternel, Seigneur, fais de nous des gens courageux. Fais de nous, Seigneur, des gens qui vont oser porter ton message, Seigneur Jésus. Père éternel, Seigneur Dieu, c'est si simple, Seigneur. Seigneur, tu nous as tant aimés, Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur.